Radio Caravane. Tour de piste.
Dans ton poste, dans ton poste.
Radio Caravane.
Cette émission a été réalisée dans le cadre d'une série de portraits autour des gens qui ont marqué l'histoire du cirque à Toulouse. Vous allez écouter l'interview de Joe Martinez, ancien coordinateur de la grainerie. Nous sommes avec Joe Martinez, l'ancien coordinateur de la grainerie. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, parle-nous de ton parcours, ton amour pour le jonglage. Tu es passé par le lido et la grainerie que tu as vu naître.
On a combien de minutes là, parce que mon parcours, il ne passe pas que par le cirque ou le jonglage, mais parce que moi, j'ai pu réaliser une certaine passion pour le jonglage, mais assez tardivement. Alors, il fallait que j'arrive à me concentrer. Je crois que j'avais déjà dépassé la trentaine, largement. Donc, j'ai eu d'autres vies antérieures que nous n'évoquerons pas aujourd'hui. Et par contre, à un moment donné, donc, on doit être, si on va parler des débuts du lido pour moi, et quasiment même des débuts du lido pour des demoiselles, on se retrouve dans, moi j'arrive là-bas, je pense au printemps 85 sur une envie de jongler. À l'époque on connaissait les balles, à l'époque tout ce qu'on connaît des massues que vous connaissez en plastique ou autre, ça n'existait pas. C'est arrivé vraiment en 86, 87, ça arrive des États-Unis, ça s'appelait des dubés. Moi j'ai eu des premières massues avec des manches à balai et du liège, donc manche à balai pour le manche, et du liège autour pour faire la massue avec très beau toile de jute bleu mauve à la mode des années 70-80 par-dessus. Et ça faisait très mal aux doigts quand ça tapait, ça coupait les ongles, mais c'était les manies faites par un artisan dans le cirque à Paris, fait par Zaza, qui était fil de feriste, elle, au Lido. Donc moi, je suis arrivé au Lido, élève, évidemment. Je pouvais faire un petit 3 balles, mais c'était tout. Et on s'est retrouvé avec quelques adultes, dont Zaza, qui était plus âgé que moi, qui avait mon âge, qui faisait du fil. Donc après, des gens avec qui on a eu l'aventure de 12 balles dans la peau. Donc que des jongleurs, entre guillemets. Même si on a essayé de faire de la planche à rouleau, si on a essayé de faire des monocycles, tout ça. Mais on était quand même intéressés prioritairement par le cirque. Et donc, on s'est retrouvé dans toute cette mouvance des jongleurs, avec ces fameuses rencontres nationales et rencontres européennes, où on partait une année à Bruxelles, une année à Gibraltar, où on se retrouvait à l'époque 300-400, là où, quand ils ont organisé à Toulouse, au 21e siècle, au début, ils ont organisé la rencontre, il y avait 4500 personnes, 5000 personnes. Et voilà, j'étais pas dans les premières fois où à Londres se retrouve à 10 ou 15, voilà, mais c'est tout ce mouvement-là où il y avait tout à inventer. Il y avait inventé des figures à retrouver ou à inventer, des matériaux qu'on ne connaissait pas. Donc je parlais tout à l'heure des massues, mais ça peut être les balles rebond qui sont arrivées et qui ont révolutionné aussi la jonglerie au rebond, voir Jérôme Thomas, voir toute cette lignée-là aussi. Et puis il y avait l'aspect qui nous a intéressé fortement et qui est un peu démodé aujourd'hui, qui était le passing, hein, c'est-à-dire comment échanger avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'une activité solitaire, personnelle, redevenait une activité collective, chose qui m'a évidemment intéressé.
Qu'est-ce qui t'a attiré vers le cirque? Sachant que sans doute, j'imagine, à l'époque, on était plus sur le cirque traditionnel, les cirques de cirque nouveau émergeaient.
Alors moi j'ai eu une petite enfance comme chacune de vous aussi, et donc j'ai des souvenirs où il y avait le jeu des 1000 francs à l'époque à Albi, où on est allé voir avec mes parents, c'est vachement original, le cirque Pender ou Amar, je sais pas, où il y avait peut-être Roger Lanzac d'ailleurs qui devait présenter le jeu, mais ça c'est pas l'important. C'est qu'après je me souviens que je suis revenu chez nous à côté d'Albi, et j'ai tendu un fil mou entre une corde molle sur le chenil de mes parents. Et je crois que j'y suis monté une fois dessus, que je suis tombé très rapidement et que je n'ai jamais pu remonter. Donc mon aventure avec le cirque traditionnel s'est arrêtée là. Et vraiment, ce courant qu'on a représenté après dans les années 80, on n'aimait pas le cirque, nous. Et par contre, on était passionnés par la jonglerie. Et c'est après qu'on s'est un peu plus ouvert à d'autres choses, où on a vu des révolutions, des pseudo-révolutions dans chacune des matières, du trapèze, en passant par le fil, en passant par la jonglerie, etc. Mais après, si je resitue dans mes collègues de 12 balles dans la peau, ou pour moi-même et mon parcours avant de rencontrer la jonglerie, comme tout ce courant du nouveau cirque, si on parle encore au Cirque Plume, qui va s'arrêter cette année, la dernière tournée se fait, il faudrait citer quasiment toutes les compagnies à cette époque-là. Ce sont des gens issus de 68 qui ont trouvé entre guillemets une niche, un endroit où ils n'avaient pas de patron au sens réel du terme, même s'il y en avait, il y avait des autoritaires et des dictatériaux même chez nous, mais ils avaient cette sensation d'être à côté où ils voulaient, ils croyaient que dans la rue on pourrait trouver n'importe quel public, enfin, n'importe quel citoyen ou autre. Ça, ça reste extrêmement important. On a cru, enfin, on s'est réfugié, on s'est installé dans quelque chose un peu à côté de la société dite classique, avec des illusions là-dedans.
C'est aussi l'époque de l'émergence du cirque social, non ? Est-ce qu'on peut parler de ça, de cirque social ?
Je crois que ça dépend des pays. C'est-à-dire, là, tu as des pays où ça commence par du cirque social. À Toulouse, nous, on était déjà, nous dans notre propre réinsertion, déjà, mais je fais exprès de répondre à ça, parce que je vois au Canada, je vois en Afrique, je vois beaucoup d'autres endroits où le cirque social a pris une part, et tant mieux, énorme. Nous, si on parle de la première année d'insertion de l'école préprofessionnelle, et Henri Guichard le raconte dans son livre très bien, quand il a cherché à faire parce que nous, on était amateurs. Nous, la 12 balles dans la peau, quand je parle, ou d'autres personnes autour de nous, on était des amateurs, et un jour, on a fait nos 507 heures et on est devenu intermittent. Enfin, comment on devient professionnel dans ce pays ? Il n'y a pas de carte, et tant mieux professionnel. Un jour, vous faites votre intermittence, donc là, nous, ça va être en 1987-88, qu'on est tous les quatre fondateurs de la compagnie, plus le cinquième, le musicien, plus le sixième, le tourneur, etc. Voilà, on est devenu intermittent. Mais donc je reviens sur la formation. Henri Guichard, donc directeur du Lido dans les années 94, quelque chose comme ça, je peux me tromper, 95, il va chercher quasiment même des gens qui font la manche à Toulouse en jonglant. Des arigeois beaucoup à cette époque-là, et là on parle de cirque social pour moi, c'est-à-dire comment ces gens-là ont pu faire après de très belles carrières pour certains d'entre eux, et ce qu'on a vécu aussi dans d'autres pays avec du vrai cirque social, si je pense au Maroc, si je pense au Cambodge, si je pense à beaucoup d'autres endroits comme ça, ça peut faire des compagnies bien évidemment professionnelles après.
À la Grainerie. Comment est née la Grainerie et parle-nous de l'histoire de ce lieu emblématique du cirque toulousain.
Alors, la Grainerie, je crois que vous le savez, je ne suis pas le fondateur du tout de la Grainerie, j'ai été un développeur. La Grainerie, ça s'est fait par justement une promo de jeunes qui étaient réinsérés par l'outil cirque, l'outil théâtre et l'outil voyage, par l'association qui s'appelle Circuit Jeune, qui faisait donc du social à Toulouse. Donc les fondateurs, ils ont suivi un an de formation au Lido, avec ces trois outils-là. C'était la chance à cette époque-là de pouvoir monter des projets aussi intéressants, intelligents que ça. Et après, ils ont envie de développer leur compagnie, et ils ont donc eu besoin, comme tout un chacun, dans ces moments-là, de trouver un espace. Et ils ont trouvé une menuiserie industrielle à la sortie de Balma, côté Ken Fosse-Grive, qui était inoccupé, et ils l'ont loué avec un bail précaire, chose qui malheureusement encore est très peu fait à Toulouse aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut dans l'entre-deux, entre deux projets, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une agence qui s'appelle Intercalaire aujourd'hui là, mais ça n'existait pas à l'époque, donc bravo à eux d'avoir trouvé ça, qui permettait sur un loyer fixe de d'avoir un espace énorme dans lequel ils ont transformé le bâtiment. Je n'ai rien fait de ça non plus, où ils ont construit des cloisons, de la récup de caisses d'Airbus à 8 mètres de hauteur. C'était quand même un énorme travail. Ils ont cloisonné tout le bâtiment, un aspect stockage et costumerie, une partie entraînement, salle de théâtre et garage, bricolage, soudure, tout ça, et d'autres aspects encore partagés avec des rideaux à l'époque, non chauffés bien sûr, pour travailler. Et on pouvait voir que Mario de Jose a passé au moins un hiver là-dedans, en plein mois de décembre-février, à venir tous les jours sans aucun chauffage pour être après au Festival Mondial du Cirque de demain. Donc ça correspondait à des demandes, on aurait aimé avoir du chauffage mais on ne pouvait pas. Et quelques bureaux et une cuisine. Bravo à eux d'avoir construit, d'avoir eu l'intelligence de ça, plus des espaces extérieurs où la gîte mettait son chapiteau, où d'ailleurs ces gens-là même de Salto Branco venaient dans le spectacle de la gîte. Voilà un peu le début de la grainerie où se trouve nous. Alors nous, le nous, c'est il y avait Don Salto, il y avait une compagnie de marionnettes, je vais en oublier un ou deux. Il y avait entre autres nous qui sortions de Lido, dont Florence Meurice, directrice adjointe de la grainerie, partie après depuis beaucoup d'années vers la compagnie 111, administratrice générale. Et moi, on sort du Lido et on monte une association qui s'appelle Acolyte, qui s'occupe de production-diffusion. Moi, je travaillais déjà sur la diffusion des scouts, des acrostiches qui étaient sortis de vis-à-vis de 111. Après, on était là-dessus. On ne savait pas trop ce que c'était d'abord au départ la diffusion, on l'a compris. Après, on ne savait pas trop ce que c'était la production, puisqu'on ne faisait pas de demande dessus, on ne savait pas trop tout ça, puis on l'a compris. Donc Florence était très bonne en production, et elle a pu le prouver par la suite. Et donc, on a vu après la deuxième ou troisième génération sortant après le Lido, c'est-à-dire là, on arrive sur 111, la compagnie 111, et sur beaucoup d'autres genres de cirque. Et donc, on avait besoin de bureaux. Et vaille que vaille, pendant 2-3 ans, mais on a pu monter une rencontre d'acrobatie importante là-bas. On est parti de la rencontre de l'aérien, comme sur le principe des rencontres de jonglage dont je parlais tout à l'heure, où viennent des gens spécialistes d'acrobatie ou qui veulent se former avec ce mélange, encore une fois. Je peux être amateur, j'ai le droit de venir, bien sûr, je suis professionnel, je peux venir et je vais apprendre aussi des choses d'amateur. Enfin, donc ces frontières amateur-professionnel, si on est passionné par une technique, on s'en fout à un moment donné. Donc ces choses-là ont pu se développer sur un bâtiment précaire et ça nous a permis d'amorcer la grainerie finale, qui est la grainerie 4, puisqu'il y a eu deux encore aventures intermédiaires avant d'arriver au bâtiment définitif. On est passé par des Algeco, on a été déplacé une première fois, on était juste à côté du métro et après on a été reculé dans la parcelle définitive. Bien sûr, les mètres carrés près du métro sont plus chers que ceux un peu plus loin.
Donc la grainerie aurait pu s'appeler la menuiserie, en fait.
La grainerie, alors quand j'ai dit menuiserie, parce qu'après quand ça a été une menuiserie, c'est devenu un stockage de graines. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé la grainerie. J'ai rien à voir avec le titre non plus, mais okay. Je l'assume. Et la grainerie était porteur de germes, etc. Ben, je trouve que c'était très porteur. Ils l'avaient pensé avant moi, les gens de Salto.
Très jolie image. Est-ce qu'il y avait à l'époque des subventions pour le spectacle vivant ou est-ce que vous avez fait vraiment office de défricheur? Comment vous recevez les financeurs à l'époque?
Je peux faire assez long là-dessus, hein, parce qu'à l'époque, les circassiens, c'était saltimbanques.
Bah oui.
J'ai deux anecdotes, je crois qu'elles valent la peine quand même d'essayer de les garder pour l'éternité. Je vais avec Henri Guichard dans un rendez-vous à la DRAC, avec le directeur de la DRAC, je crois, ou peut-être rien que le conseiller théâtre, mais pour nous, ça nous paraissait déjà un garçon inatteignable, qui était très gentil, qui tirait sur sa pipe. Henri, directeur, c'est sa coche, il y allait, il argumentait, et l'autre le laissait s'étioler. Et au bout d'un moment, Henri, c'est comme s'il y avait une flaque sous lui. L'autre, c'est des techniques en plus que j'ai déjà vu faire à d'autres moments. Ça fait qu'à un moment donné, vous êtes sans ressort, vous n'avez plus aucun argument, vous ne pouvez plus rien dire. Et voilà, et on est parti, on était saltimbanque. Et la deuxième chose, là je sais qui c'est, c'était pas en plus le plus mauvais des bonhommes, mais on est quand même sur chacun de nos œillères à des moments donnés sur quelque chose qui est en train de se produire dans le pays et entre autres à Toulouse. C'était le conseiller théâtre de l'époque, un garçon. Il me dit, sur un apéro à la région, un truc comme ça, parce qu'on ne le voyait pas facilement, il me dit « il n'y a pas de cirque à Toulouse puisque je n'en ai de pas ». Donc ça me paraît correspondre à ce que tu poses comme question. C'est le temps qu'il a fallu, et qu'il faut encore à des moments donnés, pour que ceux qui arrivent, comme après le hip-hop ou d'autres, hein, c'est pas spécifique à ça, mais l'image des saltimbanques, j'ai été sur les chasses et cracheurs de feu, bien sûr, comme tout ça, dans cette image dite dévalorisante, même si des cracheurs de feu au Canada ont fait le cirque du soleil avec les plus et les moins que ça peut comporter, mais c'est comment on a eu du mal à des moments donnés à savoir employer les mots qu'il fallait, les images qu'il fallait, les ronds de jambes qu'il fallait, les courtisanismes qu'il fallait pour pouvoir accéder à des subventions. Aujourd'hui, le cirque est plus doté sur les compagnies à Toulouse et on a des jalousies venant d'autres secteurs plus traditionnels comme le théâtre, pour ne pas le nommer, qui à des moments donnés voit qu'il y a plus de compagnies qui étaient dans le cirque, voire 111, qui pour moi plus dans le cirque, mais qui continuent à faire bien évidemment du travail intéressant, mais même d'autres compagnies qui ont irrigué la danse ou autre, et comme il y aura d'autres moments donnés des allers-retours, et il y en a d'ailleurs, dans les deux sens ça se passe, et qui donc sont plus majoritairement aidés aujourd'hui. Donc, en quelques années, ça a changé, effectivement.
On parle même du fait que la région est devenue un pôle d'attractivité pour les artistes de cirque.
Alors, c'est une terre de cirque, déjà, il disait pour les Pyrénées, il continue de dire pour l'Occitanie. Moi, je me méfie toujours quand j'entends ça, parce que il faut. Alors, je me méfie. Oui, c'est vrai, Mais attention, quand on dit ça déjà, c'est déjà une institutionnalisation qui peut avoir ses effets pervers parce qu'on continue à croire qu'on est, alors qu'on n'est plus, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, et il se passe beaucoup de choses dans d'autres pays, et on est des fois dans le nombrilisme français ou autre, qui croit qu'on est les meilleurs tout le temps. Cette relation avec les politiques ou les responsables cultureux, qu'est-ce qu'on fait de ça à un moment donné? Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas? Alors, est-ce que dans une telle région, c'est la danse qui est en avant, est-ce qu'on va aider majoritairement la danse? Et comment on irrigue le reste? Et par exemple ici, est-ce que si le cirque était majoritaire, est-ce que comment on continue à irriguer le reste? Parce qu'il faut quand même aider les nouvelles émergences, qu'elles soient dans le cirque ou qu'elles soient ailleurs. Et c'est là où c'est un peu compliqué.
Revenons sur la grainerie, c'est la quatrième étape de ce projet, donc comment vous en êtes arrivé à ce lieu qu'on connaît aujourd'hui?
Ça peut être un peu long là aussi, alors je vais essayer d'aller vite, il y en a une qui est, on arrive au début du XXIe siècle, c'est les nouveaux territoires de l'art, et je vais le dire de façon très, je ne sais pas si c'est le terme trivial, mais il y a l'usine déjà qui est repérée à Tournefeuil, il y avait tout le travail autour de l'usine, ex-Royal de Luxe au départ, mais de longue partie depuis longtemps, mais la machine bien sûr qui a évidemment extrêmement émergé depuis, et sorti d'ailleurs de la machine. Donc ils ont déjà repéré ce pôle-là, après une usine d'écarissage à Blagnac, après une menuiserie à Tournefeuil. Donc ils ont besoin de le légitimer, de commencer à l'aider. Il y a un nouveau machin qui s'appelle Nouveau Territoire de l'Art, aujourd'hui ça va être des tiers-lieux, et puis ça va changer le vocabulaire. Avec un garçon très bien qui arrive sous secrétariat d'État, qui fait le rapport à l'extrait, monsieur l'extrait, enfin l'extrait, qui va faire une dynamique énorme là-dessus, et tant mieux, avec Mixart d'ailleurs, ici. Et donc, ils ont besoin d'aider l'usine, et on arrive déjà sur le début de la métropole, donc là on quitte l'échelle de Toulouse, on est sur le Grand Toulouse à l'époque, et pas sur Toulouse Métropole, donc il leur faut notre lieu. Et bêtement, on est dans le nord, est de à Tournefeuil, il y a la grainerie qui pourrait être dans le sud, vers Balma, là-bas. Donc bêtement, je pense qu'il y a une géopolitique locale, il fallait irriguer ailleurs et pas que confisquer toujours les mêmes. Et Tournefeuil était très malin là-dessus, sur faire du boulot en mettant pas beaucoup plus d'argent que les autres. On avait déjà des projets européens, avait déjà des financements autres. Et donc, ils ont repêché la grainerie qui serait mort derrière son talus là-bas, en la mettant dans la boucle. Et deuxième chance pour nous, c'est que ce bail précaire, le terrain va être acheté. Alors, c'est une histoire longue. Le terrain appartient toujours peut-être à Imochamp. Imochamp, c'est l'immobilier d'Auchan. À l'époque, il y avait Auchan a commencé à acheter toutes les terres là où il y avait la grainerie, sauf une où Leclerc avait. Il s'amusait à faire ça partout en France et certainement dans le monde. Donc ils se pourrissaient les uns les autres en achetant une parcelle aux autres. Et après, ils se dealaient entre eux. Donc à l'époque, ça s'appelait Mammouth. Et à un moment donné, Auchan National rachète Mammouth. Donc ils n'ont plus besoin de ces terres-là. Donc ces terres sont gelé par Imochamp, qui peut nous faire un prix gentiment, parce qu'eux, ils récupèrent leurs taxes foncières dessus à travers le loyer qu'ils nous font. Mais Grand Toulouse, à l'époque, a besoin de ces terrains pour faire un barreau routier qui va partir entre Quenfonce-Griffe et Saint-Orens, et pour faire un barreau routier qui va rejoindre le périph' là, pour décharger les routes nationales. Et donc, ils gèlent des terrains à 10-20 ans pour ça. Et donc, ils nous rachètent. Alors, ils nous rachètent. Ils sont sur le processus de racheter à Imochamp. GAG, aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont toujours pas racheté. Mais Grand Toulouse se retrouve, et avec des techniciennes sympathiques, chefs de bureau, il y avait très peu de personnel à l'époque, c'est vraiment le début de cette métropolisation, avec un problème qu'ils avaient sur leur terrain, ou futur terrain, un lieu qui n'était absolument pas en norme. Donc, ils font passer une inspection. Et cette inspection, je l'ai encore d'ailleurs, elle montre qu'il n'y a que l'escalier en béton qui fait 8 marches qui est aux normes, tout le reste électricité, tout le reste évacuation, tout le reste autre, on n'est pas du tout aux normes. Donc ils ont la trouille, avec raison, et ils nous déplacent sur la nouvelle caserne, l'ancienne caserne de Balma-Gramont, qui sont en train de commencer à lotir et à installer. Donc il y a des vieux bâtiments qui étaient très bien, dans lesquels on peut s'installer provisoirement, et on pouvait mettre les chapiteaux contre la sortie de métro à l'époque. Voilà la petite histoire, et après ils nous ont reculé de parcelle en parcelle sur les trois autres.
La grainerie, c'est la fabrique du cirque et de l'itinérance. La partie itinérance, tu peux nous en parler un peu plus ?
Ben, la partie, parce que pour le cirque, pour moi, ça reste quand même souvent du chapiteau qui itinère, mmh. et donc des convois. Et donc, même si moi, j'ai jamais monté de chapiteau, j'ai jamais planté de pince, mais on parlera peut-être de l'aérien, j'ai jamais fait d'aérien non plus, mais ça m'a tenu à cœur, le grand volant par exemple. Donc, comment répondre à ça, si ce n'est ce qu'on avait pu vérifier, si on avait le temps d'installer une équipe de cirque pas connue. Là, je redécouvre l'eau tiède, là, et que tu l'installes une semaine et qu'ils ont la possibilité de rester une semaine de plus, que le public le découvre en cours de route, que le public le découvre en avançant et fasse du bouche à oreille, c'est basique. Hein. Ça permet de faire qu'ils peuvent rester 3-4 semaines. Donc l'itinérance était importante, mais c'est le stockage d'un convoi. Parce qu'il y a des camions, il y a du chapiteau, il y a du gasoil, il y a des chauffages, il y a tout ça qu'il faut. Donc ça vient de ça et ça n'a pas été simple à des endroits, même si l'équipe du Grand Toulouse sur l'aspect quel terrain, là je vais faire une petite parenthèse mais elle me paraît importante. Alors il y avait M. Filiola qui était le maire de Balma à l'époque, conseiller départemental, qui nous a aidés bien sûr à des moments, mais il arrivait sur l'histoire du terrain où on plante un chapiteau, il voulait du goudron. Et nous on n'était pas encore complètement planète en danger comme aujourd'hui où on sait très bien chauffage de la planète, les goudrons, on ne voulait pas du goudron. Et alors il ne voulait pas lui de trucs qui lui salissent les chaussures, enfin, mais pas qu'elles soient spécialement chères ces chaussures. Mais on a eu ces luttes-là qu'on a gagnées en mettant de la terre battue, en fait de la terre tassée, parce qu'il faut en plus qu'elle soit tassée pour tenir les pinces après, mais qui n'était pas bétonnée.
Années, tu as été l'un des coordinateurs de la grainerie, mais c'était un travail d'équipe et j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette équipe-là et comment tu as rencontré notamment Isabelle Gorski à l'époque.
Voilà, tu veux que je te raconte la vraie rencontre avec Isabelle,
bah ouais, je vais
te la faire.
Vraie, ouais.
C'est un dimanche après-midi, j'allais bosser, hein, parce qu'évidemment qu'on bossait tout le temps. Ça me fait rire de raconter, je crois que je l'ai raconté quand même, parce qu'Isabelle, faut-il le dire tout de suite, elle est morte depuis déjà pas mal d'années, elle est morte à 50 ans et ça nous fait bien chier. Donc Isabelle, je l'ai rencontrée, pour moi c'était une veuve grecque, quasiment. Je la rencontre au bas d'un escalier un dimanche, elle travaillait avec une compagnie de marionnettes à l'époque. Voilà ma vraie rencontre avec Isa au bas de l'escalier. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle venait donner un coup de main bénévole à aspect expo de la compagnie de marionnettes qui était installée à la Grainerie. Voilà comment je rencontre cette femme-là qui après a été embauchée dans l'équipe de Salto Branc. Et après, on a appris à travailler ensemble, entre autres sur ce que j'ai très rapidement dit, la rencontre autour de l'acrobatie, puisque c'était Salto, avec des conseils d'acolytes et plein de bénévoles acrobates, avec des caractères forts, mais ça arrive souvent, et c'est normal, dans le cirque, il y en a pas mal. Voilà, donc c'est comme ça qu'on il y a eu des tensions, on a appris à se connaître et à se respecter à ce moment-là, avec Isa, qui a intégré après, dans les divers déménagements, elle était déjà dans l'équipe de grainerie, elle est arrivée en deuxième ou troisième de l'équipe, puisqu'il y avait Jean-Marc Broca qui sortait, lui, de la gîte, elle sortait donc de Salto, et ça se faisait, nous, moi j'arrivais d'acolyte, donc c'était quand même sur les équipes qui étaient réellement déjà implantées là, on a ramassé des gens extrêmement valables et bosseurs. Jean-Marc a extrêmement progressé sur les projets européens et a apporté des projets et une énergie, et Isa était là, mais a été une cheville essentielle, moi je pense, quoi. Après, c'était quelqu'un qui avait des complexes, parce que c'était, encore une fois, c'est les charmes et les quelques inconvénients des autos qui n'ont pas fait l'école suffisamment. Cette banlieue parisienne, elle était au lycée à Manu Chao, donc tous les problèmes de dérive aussi de ces époques-là. Mais ces énergies de cette jeunesse qui était bien après la mienne, qui était dans les années 68, donc vous voyez quoi, ça faisait mal. Après, quoi dire d'Isa? Moi, c'était comment ces autodidactes se mûrissent. Pour moi, c'était le relais dans l'équipe, superbe, avec d'autres femmes, majoritairement des femmes qui ont rejoint après l'équipe. C'est comment on a été assez intelligent dans ces années d'émergence. L'enjeu, c'était comment on pouvait répondre ou pas aux demandes de la grainerie, sachant qu'elle mangeait beaucoup de temps et que c'était très mal payé. Ouais. Et comment on avait envie de développer des passions, qu'on ait tort ou raison de les mettre à ce point-là, à ces endroits-là. Bien sûr, il y avait des confusions entre sa propre vie personnelle, ses propres fantasmes, ses propres désirs d'égalité, avec toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir dès qu'on prononce le terme d'égalité, égalité de salaire, tiens, égalité homme-femme, tiens, etc., etc., je vais m'arrêter là, qui font que c'était quand même, moi, ça a été des années passionnantes, même si on bossait comme des fous, J'arrivais vers entre 5h et 6h du matin. Alors je la fais très vite ça, même si c'est pas la question. Entre 6 et 9, j'avais les mails à traiter. Je pouvais les traiter calmement. Et à 9h, un autre métier commençait, puisque les gens arrivaient. Et donc là, c'était d'autres échanges avec les collègues salariés et avec les utilisateurs du lieu. Voilà, c'était. Puis ça finissait assez tard.
Et justement, quelle différence y a-t-il entre la grainerie d'aujourd'hui et la grainerie d'il y a 20 ans? Puisque la grainerie a 20 ans, et toi tu as vu tout ça.
Moi je pense que j'étais plus un développeur qu'un installateur. Donc à un moment donné, l'institutionnalisation, mon Dieu quel terme long, c'est quelque chose où j'aurais perdu de mes capacités. Parce que j'étais pas bon partout, bien évidemment, moi aussi. Ils ont été partis aussi, donc ça, c'était complexe. Il a fallu se relever de ce drame interne qu'on a pu voir au moment de son enterrement, des gens qui ont tenu artistiquement à lui rendre hommage, à jouer malgré la douleur ou autre. Certes, on savait qu'elle allait mourir, mais ça c'est allé jusqu'au bout, ces choses-là. On ne s'en relevait pas si facilement. Mais alors, ça, je referme, je reviens. Moi, je savais que j'allais partir quand même, au sens partir à la retraite et pas partir dans une tombe ou disséminer les cendres à ce moment-là. Et donc, j'étais quand même préoccupé par ça. J'ai envie de dire que j'aurais aimé à un moment donné qu'Isa me remplace, et j'avais envie qu'elle parte se former, voir les formations de Grenoble, voir tout ça, et que j'étais pas le seul à décider de ça, certes, mais je pensais qu'elle avait elle avait intuitivement les bonnes réponses, mais après il fallait consolider sa formation initiale. Et il y a une très bonne formation qui existe à Grenoble, qui permet de refaire du carnet d'adresse, qui permet de refaire de la théorie, qui permet de refaire tout ça. Donc ça n'a pas pu se faire. Il y a eu un appel à candidature, un directeur est arrivé, c'est un ancien ami, je le connaissais d'avant, du chaînon manquant, tout ça. Mais je tiens à dire que d'ailleurs, là où on est aujourd'hui, donc au Cactus, à Toulouse, j'ai eu une heure de tuilage avec Serge pour transmettre la coordination en direction de la grainerie. Une heure de tuilage, là où on avait demandé, le CA avait demandé 2 mois de tuilage, ce qui paraît un minimum, ou 3 mois. Voilà, donc ça c'est quand même des choses que j'avais un peu en travers. Je ne suis pas allé à l'inauguration de la grainerie qui s'est faite quelques mois après mon départ, qui avait été repoussée parce que l'histoire de Mera nous avait rattrapés à Toulouse. On avait annulé l'inauguration ce jour-là. Mais j'étais assez furieux de voir déjà comment les institutions, qui ont leur bon côté, mais là on était sur quand même cette question, comment ils nous dépossèdent d'une association qui est théoriquement indépendante, même s'ils la financent fortement, et jamais assez, mais fortement. Donc on était dans ces choses-là. Après moi, sur ma question, je vais à la grainerie régulièrement aujourd'hui. Quelques années sont passées. Volontairement, je n'ai été ni au CA, ni président, ni adhérent pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'un jour je ne serai pas adhérent de base, parce que ça, il faut le faire, il faut savoir couper à ces choses-là. Il y a assez de choses à faire dans le monde et je ne me suis pas emmerdé depuis, c'est pas ça la question. Mais c'est j'y vais avec plaisir, j'oublie des fois quel rôle j'y ai joué avec d'autres dedans. Bien sûr, je reviens sur ce terme institutionnalisation, je continue à penser que la grainerie est sous-dotée par rapport, et tout le monde, les élus de la ville le savaient, le technicien, directeur des affaires de la culture de Toulouse, qui s'appelait Sautreau à l'époque, le savait. Il savait très bien que tant qu'il y a tant de mètres carrés, il faut tant d'argent pour fonctionner au sens réel du terme, entretien du bâtiment, à minima. Ils le savent. Ils ont fait un audit aussi qui m'avait mis assez en colère à l'époque. Ça ne servait à rien parce qu'ils savaient déjà la réponse. Et on est arrivé dans la fin de la... On a eu la chance d'être un nouveau territoire de l'art, mais on a eu la malchance d'arriver au moment où les subventions se tarissaient. À un moment donné, on a vu cette difficulté-là que j'ai eu la chance de ne pas vivre moi. Mais en tant que responsabilité, je veux dire, parce qu'on s'autocharge dans ces choses-là. Et là, elle peut fonctionner. Mais c'est encore fragile, et ça me fait mal, bien sûr. Je vois un endroit où il y a un point... Alors je vois après la programmation, comment Serge et d'autres se battent pour faire cette programmation, dont plein de choses me vont. Et d'ailleurs, le retour du chapiteau dont tu me questionnais tout à l'heure, je vois des choses arriver parce que je trouvais qu'il était sous-utilisé dans un premier temps, et là, ça revient, et il le faut, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se battre et qui ont besoin de montrer leur travail dans des agglomérations de France, et entre autres à Toulouse. Et tant mieux. Et juste sur l'aspect de la salle d'entraînement, je vois que les collectivités, là je parle de l'État, se sont rendus compte qu'il n'y avait quasiment aucune ville de France où un espace en semaine, pour l'instant du lundi au vendredi et toute la journée, est ouvert pour pouvoir s'entraîner. Il y a eu des visites récemment, pendant Circa d'ailleurs cette année, et ça m'a fait plaisir parce que c'est Salto qui l'a créé la première salle, mais qu'on s'est battu pour la garder et qu'on soit maintenant la grainerie comme un exemple dans des réunions qui se passent au ministère, j'ai vu les comptes rendus où la grainerie est citée un exemple et il y aura une subvention spécifique pour ça, malgré le prix déjà où les gens, les adhérents cotisent pour y être. Je trouve que là, on a bien travaillé tous ensemble, bien évidemment, et que ça serait bien que dans d'autres villes de France, au-delà du 104 à Paris, par exemple, où les gens amateurs professionnels, j'y reviens encore une fois, peuvent se rencontrer et qui va en manquer bientôt. D'ailleurs, je ne sais pas, la grainerie, si elle n'est pas embouteillée aussi là-dessus, mais on pourrait créer d'autres espaces aussi où ces mélanges peuvent se faire. Et j'espère après que les... Parce que le problème de l'institutionnalisation, normalement, et on le revoit sur le Lido aujourd'hui, mais c'est que si on met aux normes, il va falloir plus d'argent pour que les artistes qui jouent soient payés, que les techniciens qui les accompagnent, les chargés de prod, etc., soient payés à minima. Je dis bien à minima. Mais je crains que ça ne soit pas le cas encore dans quelques aventures proposées à la grainerie, et c'est pas normal. Et je l'ai fait pendant des années aussi, bien sûr, hein, de ne pas payer suffisamment les gens qui venaient là parce qu'ils m'aimaient bien, ils venaient là, oui, ils aimaient bien Isa ou d'autres personnes, ils venaient là parce qu'ils étaient bien reçus, même si on n'avait pas l'argent pour leur faire le repas syndical à 18 euros et quelques, voilà, il y avait quand même cette âme-là où ils avaient besoin de rôder, de tester des choses. Donc, mais à un moment donné, ça peut pas, sur la longue durée, ça ne peut pas se faire. Donc là, il y avait une question, mes chances, moi je dors mieux.
Le Lido va obtenir la validation de la formation en tant qu'école supérieure de cirque, qui va permettre aux artistes d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Et en quoi est-ce une nécessité ?
C'est effectivement un combat énorme depuis plus d'un an et complexe. Pourquoi c'est important ? On se retrouve, moi, chose que je n'acceptais pas, et j'étais plus Lido à l'époque, même si je suis toujours Lido, parce qu'on se sent quand même concerné par ces endroits où on est passé, où on a vécu, où on a développé. Mais un jeune, moi je vois des copains artistes de cirque aujourd'hui qui arrivaient de Barcelone à l'époque, qui arrivaient au Lido, pour louer un appartement à Toulouse, ce n'était pas possible. Enfin, mais les parents, même s'ils se portaient caution, et je parlais bien, ils n'arrivaient que de Barcelone, ils n'arrivaient pas du Venezuela, ou ils n'arrivaient pas d'Israël, ou ils n'arrivaient pas du nord de l'Europe, c'était extrêmement difficile. Donc déjà, le fait d'avoir des diplômes qualifiants en sortie, ça permet d'avoir accès à d'autres façons pour les loger, pour ces hébergements-là, à minima. Ça, c'est une partie de la réponse. Deuxièmement, ça fait quand même 15-20 ans que le tournant en Europe et dans le monde entier est pris, c'est qu'il faut s'adosser à des universités pour pouvoir continuer cette histoire-là. Et je suis au regret de dire que le Lido était extrêmement en retard, puisque à la Villette, ces réunions se faisaient il y a 15 ans, j'y étais, le Lido y était aussi, et on n'arrivait pas à faire avancer le dossier Lido pour X raisons. Alors que le nord de l'Europe, alors que l'Argentine, alors que d'autres endroits, ça avançait très vite là-dessus. Et encore une fois, à tort ou à raison, que ce soit des vieux profs de fac qui tiraient du cirque, ça peut paraître aberrant, comme des vieux circassiens qui tiraient... Ben voilà, on peut tomber sur d'autres dangers après, mais c'est même pas le problème. La raison, c'est que c'était incontournable. Donc à un moment donné, il fallait que le Lido puisse... tout en gardant sa spécificité, son savoir-faire, tout en gardant l'intérêt pour des jeunes du monde entier de venir se battre pour être dans les 15 élus qui vont être dans la promo, il fallait revenir aux normes obligatoires. Donc là, ça a été compliqué. Il y a eu un peu de retard à l'allumage de ce Lido historique, 20e siècle pour moi, des endroits. J'en suis un pur produit, mais bon, on est au 21e. Et là, c'est compliqué parce que le Lido a été monté de briques et de brocs. Et l'illégalisme, et moi ça ne me dérange pas l'illégalisme, que ça soit bien clair, que Henri Guichard ait permis à des générations entières de travailler toute la nuit au Lido, je trouve ça extrêmement bien. Et je peux raconter vis-à-vis Triplex, c'est Vincent et d'autres, qui avaient créé pendant tout un mois d'août, juillet et août, en bossant jour et nuit, on arrivait à Aurillac avec un spectacle magnifique qui tournait après pendant 4 ans. Le Lido, après, les animateurs, les enseignants étaient très mal payés, sont encore pas payés aux normes obligatoires des conventions collectives aujourd'hui. Les locaux sont lourdement insuffisants. Écologiquement, ce bâtiment est une merde, soyons clairs. C'est des grille-pains qu'il y a au plafond. Ça a été juste l'année avant que la double pose soit obligatoire sur les chapiteaux. C'est avec de l'argent de la région qui est venu en supplémentaire pour permettre la double pose qui n'était pas prévue au départ, mais bravo à eux d'être arrivés à avoir la double peau. Mais ce bâtiment, un mètre carré, un espace de recherche, un espace de piste de danse, de autre, ça ne va pas. Donc il va falloir. Le Lido, oui, il y a des choses qui ont joué. Il y a une nouvelle direction qui est arrivée. Le garçon s'appelle Alain Taillard. Il va se faire justement un tuilage de 2 mois, tiens, une semaine à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est bien. Ça va être un vrai tuilage. il va défendre, je pense, Alain Taillard, la validation. C'est dans cette quinzaine-là où lui, il fallait aussi une direction quand même pour que le ministère le valide. Donc je pense que tous les feux sont au vert là, et tant mieux, mais ça va y être beaucoup plus compliqué. Malgré tout, pour moi, il reste le problème d'argent du Lido et des mètres carrés du Lido. Et je voudrais redire, je crois que j'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'entretien, mais par exemple, quand on faisait Toulouse en piste, il y avait 475 000 euros. C'est rien par rapport aux 3 millions de la danse à Lyon ou ailleurs, hein, soyons clairs. Et on a vu ce que coûtait la machine à Toulouse, ça y est, on sait ce que c'est quand on veut jouer dans la cour des grands. Les 475 000 euros qui auraient pu rester dans la filière cirque et qui auraient pu permettre que le Lido et plus soit aux normes normales de financement. Malheureusement, on n'a pas été capable, et moi y compris, de se battre pour que cet argent-là reste là. Je prends l'exemple du Cirque Plume que je citais tout à l'heure. La subvention nationale du Cirque Plume, qui s'appelle le financement direct, le ministère directement de certaines compagnies, le Cirque Plume arrête son activité, mais l'argent qui était versé au Cirque Plume va rester à irriguer le cirque en général. Voilà pourquoi je dis cette histoire-là. On n'a pas été capable de le faire, c'est dommage. Donc pour des histoires de 175 000 euros, on a des gros problèmes pour les trouver. Ils ont des gros problèmes, les collectivités, se tenir marqué par la culotte, si t'en mets pas plus, j'en mets pas moins, etc. C'est dommage, on aime à nous aussi de nous battre. Donc, tu me parlais tout à l'heure de la région qui était cirque, mais si Toulouse est encore, et j'en suis pas sûr parce que je le vois pas dans le bilan, dans le projet de... comment on appelle ça, culturel de la métropole qui a été présenté l'an dernier au TNT, je ne vois plus le cirque apparaître. Je vois la musique, les musiques, mais le cirque a reculé. Nous avons perdu des points ici, au-delà de Toulouse en piste, qui n'était pas obligatoirement à garder toute notre vie. Mais je pense que pour les élus aujourd'hui, le cirque est moins prioritaire qu'à d'autres périodes, et c'est notre faute aussi quelque part, à nous de nous imposer avec nos talents encore plus.
On entend également parler d'une possible fusion du Lido et de la Grainerie. Est-ce une bonne idée? Et en quoi cela pourrait permettre d'être un pôle majeur du cirque sur le territoire et en France?
Alors, il y a des aspects positifs là-dedans et des aspects évidemment ambigus. Je trouve regrettable, et j'en suis aussi quelque part responsable ou impuissant responsable, que ce ne soit pas les équipes de la Grainerie et du Lido qui aient proposé de mutualiser, alors qu'on le faisait déjà un petit peu, de le faire, on le faisait sur la quatrième année d'insertion, par exemple, qui ça fait depuis 8 ans, 8 ou 9 ans, ça doit se faire ça. Mais on n'est pas allé plus loin là-dessus, et il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça, mais il y a un manque d'ambition aussi des deux partenaires Lido et Grainerie. En gros, l'ERS qui sépare la ville de Toulouse de la ville de Balma, à un moment donné, était infranchissable pour le socioculturel qui animait le Lido, malgré nos demandes, mais ça c'est ma version, après il faudrait voir la version de l'autre côté. On n'a pas été capable d'aller plus loin malgré des propositions que je pourrais énoncer à d'autres moments si ça intéresse des gens. Ta question, et je vais la repréciser, c'est ils viennent de recruter une personne, donc Alain Taillard, qui arrive de la Fédération Française des Écoles de Cirque, qui arrive du Festival du Mans et du lieu de création au Mans, qui est un garçon qui a un pédigré qui va très bien et qui connaît déjà pas mal des gens de l'équipe là. Mais son statut, normalement, c'est... le statut réel, il est directeur pour 3 ans de la préfiguration Grainerie Lido. Sauf que dans la dernière année, ça s'est focalisé essentiellement sur les actes, sur l'école supérieure des arts du cirque. Mais si on regarde les statuts votés par les conseils municipaux et Toulouse Métropole, c'est bien précisé dedans, si ce n'est que ça a été amoindri. Après, qu'est-ce que Alain et tout le monde et les collectivités et les gens de la Grainerie et du Lido, toutes les équipes vont être capables d'avancer sur 3 ans après avoir implanté au forceps l'école supérieure, j'en suis incapable de le dire là. Il y a des aspects positifs dans les mutualisations, mais si c'est des aspects imposés, si ça passe en force, ça ne peut pas aller. Je prends un exemple. Je l'ai sous-entendu tout à l'heure, je vais essayer d'être plus explicite. Je suis allé une seule fois au Québec avec la TOU, avec l'école de cirque. J'avais visité la première école de cirque, qui n'a rien à voir avec le Lido d'aujourd'hui. J'ai visité la deuxième, qui a encore moins à voir avec le Lido d'aujourd'hui, qui est pourtant le Lido 2. Hein. Mais c'est ahurissant. Enfin, si vous, je ne sais pas si vous avez visité, mais c'est les fosses pour atterrir après des chutes de 15 mètres, tout ce que vous voulez, les hébergements, tout est bien fait. Pourquoi je disais ça? Parce que qu'est-ce que je vois ? L'école de cirque est à côté de la Tohu. On pourrait imaginer, tiens, on pense l'hydrograinerie. Et il y a un espace... Enfin, la Tohu, c'est un gros bâtiment qui permet d'accueillir des choses de plus ou moins grande envergure. Je reviens vers le Lido en disant, mais quand vous faites votre fête du Lido, là, vous faites jouer une fois l'équipe, les EP1 ou les EP2, ça pourrait être bien. Ce que je viens de voir à Montréal, c'est qu'il faut 8 séances devant 1000 personnes à Montréal et 8 séances qu'on peut, comme ce que va faire l'école de cirque de Châlons-en-Champagne, à Paris, à la Villette aussi, où ils jouent 15 jours ou plus. Eh bien, on n'y est pas arrivé à l'époque. Que l'espace grainerie puisse permettre d'accueillir un chapiteau qui permette, pour les 250 personnes, encore une fois, de la grainerie ou les 300 au Lido, c'est bien. Mais moi, il me semble qu'on joue petit bras à beaucoup d'endroits et que pour les artistes, c'est important de se produire sur une durée intéressante. Dans le même lieu, ils apprennent à travailler, leur entrée, leur sortie, à faire un bilan chaque soir, pourquoi j'ai été moins bon, pourquoi l'équipe, etc. Je crois que j'ai été bon, mais je n'ai pas été bon, etc. Tout ça, ça se fait sur la durée. Et il y a un public.
Comment imagines-tu la grainerie, alors le cirque de demain et surtout la grainerie dans 20 ans ?
C'est marrant ce que tu dis parce que pour l'instant, je suis, mon esprit est bouché par quelque chose. C'est quand on reprend le livre d'Henri Guichard sur le Lido, il pose la question à Francis Rougemont à la fin parce qu'il interviewe beaucoup d'autres personnes, dont moi, dont Florence, dont un tas d'autres dedans, et dont des artistes bien sûr. Et il pose la question à Francis, dis-moi le Lido dans 20 ans, ce que ça sera. Et Francis ne répond absolument pas à cette question. Et il répond comment il est arrivé au Lido et comment Henri l'a embauché, ce qui est assez cocasse et intéressant, en 94. Là, c'est des questions qui me laissent assez perplexe. Moi, j'ai été impressionné. Je suis allé au 104 à Paris. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment, parce que ça dépend de la période. Ça a été une morgue avant. Puis après, ça a été géré par des théâtreux qui s'est resté une morgue. Et après, ça a été géré par un garçon qui s'appelle Gonsalves, mais par toute une équipe là aussi, évidemment, qui a été capable d'en faire un lieu d'un dynamisme énorme, quasiment jour et nuit. Où ce mélange amateur-professionnel qui peut se développer. Alors j'essaie de raconter, par exemple, il y a des gens, j'ai des garçons qui m'interviewent qui ont un casque sur les oreilles, donc ils ont des tenseurs de tango qui ont le casque sur les oreilles et qui dansent tous les deux la même musique, mais que nous on n'entend pas. Enfin, y a des gens qui font de la jonglerie de foot que moi je ne connais pas du tout, c'est-à-dire avec des gros ballons de foot comme ça, c'est magnifique. Il y a des filles descendues des cités, parce que c'est quand même un quartier très complexe sur le long du canal de l'Ourcq, qui vont faire leur chorégraphie, qu'elles vont faire après, entre guillemets, les malines au collège le lendemain avec la vidéo de leur chorégraphie. Et le soir, à 20h, il y avait un bal musette, que les blacks qui étaient là, ils sortaient tous leur portable, ils filmaient les Français en train de faire leur bal musette. Enfin, moi, j'ai vu un mélange de populations avec une gentrification à des endroits, soit même pas complètement dupe, mais pas complètement, puisque là, les filles des tours, elles sont descendues, et les gamins des tours sont descendus, et c'est un lieu d'entraînement gratuit. Voilà, donc ça, moi, j'aimerais qu'à Toulouse, alors, je ne sais pas si c'est la grainerie, mais entre le grainerie et le Lido, j'aimerais qu'il y ait des espaces comme ça, où des gens peuvent se retrouver, échanger à partir de leur technique, de leur passion momentanée. Moi, je connaissais beaucoup de jongleurs. Dans ces conventions de jonglage où vous allez, ils étaient informaticiens. Ils gagnaient très très bien leur vie informaticiens et ils étaient passionnés de jonglage. Et quitte à ce qu'un des meilleurs du monde à l'époque, qui faisait du 11 balles ou je ne sais plus quoi, il se présentait dos au public, parce que s'il était face au public, il avait la trouille, donc il se mettait dos. Voilà, pour prendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des échanges entre les gens qui se font, et on s'en fout, et je me souviens même de Michel Navarro des Acrostiches, qui faisait des stages avec des amateurs, et qui me racontait après comment il avait appris des choses avec des amateurs, bien évidemment. C'est comment ces croisements-là, je n'insisterai jamais assez, permettent d'être nôtre après avoir fait sa priorité. Donc j'espère qu'entre la grainerie et le Lido, d'ici 20 ans, ce que je vois déjà ailleurs, nous sommes un peu en retard des fois dans ce coin-là, on ait ces espaces de frottement, d'échange, mais qui... Et ça, c'est un de mes problèmes. Quand j'étais à la grainerie, j'ai fait partie des gens qui ont freiné sur l'aspect transversalité. C'est-à-dire, tout était transversal. Et moi, j'essayais de dire, j'étais pas le seul, à dire attention, pour faire du cirque, il faut quand même passer un certain nombre d'années à s'emmerder, à dominer un agré, à le déformer, à inventer un autre agré. On voit des gens avec des... Voir les derniers spectacles des acrostiches, je me répète, mais voilà, c'est comment avec un nouvel outil qui permet de se passer dans la rue, on va faire un nouveau spectacle. Et il y a plein d'exemples comme ça. Je parlais des balles élastiques tout à l'heure, enfin des balles rebond, ça a inventé une révolution. Il y a dans la technicité qui arrive, tout ça. Et moi, j'ai donc essayé de garder quand même à tous mes amis du spectacle vivant qui disaient « mais tout est transversal aujourd'hui ». je leur disais, mais il faut que le musicien garde ses spécificités parce qu'il va avoir ses années de clarinette, de solfège, de tout ce qu'on voudra, dans le cirque aussi. Donc attention, il nous faut des lieux basiques où quand même les bases sont apprises et après, ok, sur la transversalité. Cela dit, je pense que à travers justement toutes les évolutions des tiers-lieux, ce que j'ai défendu sur mon quartier d'ailleurs, où je suis aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir les gens de la culture à d'autres choses qui se passent dans la société, et réciproquement, on a besoin aussi que des gens du quartier, du Lido et de la Grainerie, ou à d'autres endroits, puissent entrer là sans être, tiens, je ne fais pas du cirque, donc je n'ai pas le droit de rentrer, ou on en emporte. Donc je pense qu'on a besoin de je ne sais pas, je sais qu'à la Grainerie, il y a eu des vide-greniers par exemple, je vois les dégustations de vin, mais ça je connais les gens qui les organisent, donc sur ces aspects qui permettent que les populations se croisent, si possible, reviennent après, hein, bien évidemment, ça me paraît fondamental. Et ça, c'est vital, vu les crises, d'ailleurs, dans notre société, où les gens ont l'air bien isolés, ont bien eu besoin de sortir pour aller, entre autres, sur leur rond-point. Nous enregistrons ça en janvier 2019. C'était comment les gens sont anonymes et se retrouvent du collectif à vivre et à croiser ensemble. Voilà ce que je pense. J'aimerais bien que dans 20 ans, soit le monde idéal. Mais merde, la planète, elle est foutue dans 20 ans. Qu'est-ce que tu me poses comme question, toi? Mais attends, on a brûlé, là, on a grillé, on n'est plus là. Le diable nous a pris.
Oh, quel sale punk. Allez, on finit là-dessus. Merci, Jean.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse de Média Commun Occitanie et Guillaume Petrocelli de Ivasound Studio pour Radio Caravane en mars 2019. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.